briser son leadership spirituel. Et si le management n'était plus seulement synonyme d'efficacité et de rendement ? Et si le modèle qui épuise autant les hommes que la planète touchait à sa fin ? Et si quelque chose d'autre était en train d'éclore ? Un leadership qui redonne au spirituel sa juste place en entreprise. La société a besoin d'une nouvelle génération de dirigeants et managers audacieux qui osent réformer le système. Des leaders engagés et éclairés. Cette série de podcasts vous est proposée par Karine Mast, fondatrice de Brand Alphabet.
Pour ouvrir notre série d'entretiens avec ces leaders éclairés, nous sommes allés à la rencontre de Fabrice Bonifay, directeur développement durable et qualité du groupe Bouygues et auteur d'un ouvrage intitulé « L'entreprise contributive, concilier monde des affaires et limites planétaires » aux éditions Dunod. Votre ouvrage est un manifeste contre l'inaction et la passivité. Les chapitres du livre nous donnent des pistes pour sortir du statu quo à travers de nombreux exemples inspirants. D'où est née l'idée de ce livre ?
Le why, c'est que avec Céline, on se connaît depuis des années. Hein, et on échangeait beaucoup sur toute la littérature qui existait sur la façon dont on pourrait s'y prendre pour prendre en compte les fameuses limites planétaires. Et on s'aperçoit qu'il y avait beaucoup de livres qui expliquaient pourquoi on ne prenait pas en compte ces limites. Mais il n'y avait pas beaucoup de littérature ou de livres qui expliquaient comment on pourrait améliorer les choses et le traduire en quelque chose de positif pour l'économie et pour la microéconomie, hein, plus que la macroéconomie, et donc les entreprises en l'occurrence. Et c'est comme ça que nous est venue l'idée de dire, voilà, y a beaucoup de livres sur le pourquoi, mais pas beaucoup de livres sur le comment. Donc on va faire un livre sur le comment, peut-être le premier livre universel sur comment prendre en compte les limites planétaires dans le modèle économique des entreprises. Et on s'est dit, ok, très bien, mais si on veut être un peu légitime dans l'écriture d'un tel livre, il faut qu'on aille voir les entreprises qui l'ont fait, parce qu'on savait qu'il y en avait quelques-unes qui l'avaient fait, mais pas beaucoup, hélas, mais quand même quelques-unes, et on s'est aperçu, à notre grand étonnement, que finalement, toutes, quels que soient les secteurs d'activité, avaient utilisé à peu près le même cheminement pour y arriver. Et on s'est dit, bon sang, mais c'est bien sûr. Donc, ils ont tous fait la même chose sans le savoir, en fait. Et c'est ce qu'on a décortiqué en 5 piliers. On s'est dit, ils ont tous commencé par les limites planétaires, puis ils ont tous ensuite réinterrogé leur raison d'être. Puis après, ils ont travaillé sur le modèle d'affaires, bien sûr, sur leur système de management et sur la façon de mesurer. Et donc, ça a structuré le livre. Et puis après, derrière, il a fallu donner des exemples et expliquer pourquoi. Donc, c'est comme ça que le livre est né.
Et vous dites, aucune entreprise ne peut se targuer d'être 100% vertueuse.
Ah ben non, parce qu'en fait, à moins de naître contributif ou contributive, ce qui peut arriver pour les entreprises qui vont commencer leur activité maintenant, qui pourraient partir d'entrée de jeu en respectant les limites planétaires, 99% des 99 des autres entreprises qui existent déjà et qui n'ont pas du tout eu ce prisme-là lorsqu'elles ont démarré leur activité, un entrepreneur du monde d'avant, qui existe encore aujourd'hui, c'est un entrepreneur qui se fout un peu de savoir quels vont être les impacts de son activité sur la planète. Et lui, ce qu'il veut, c'est surtout que ça apporte de l'argent et qu'il s'enrichisse avec ça, même s'il peut avoir une raison d'être un peu plus humaniste que simplement une recherche de profitabilité, de rentabilité. Enfin, on peut l'espérer, donc à partir du moment où la plupart des boîtes n'ont pas eu cette réflexion-là, une fois qu'elles ont compris qu'elles allaient dans le mur, parce qu'en fait l'humanité va dans le mur si on continue de consommer et de gaspiller les ressources de la planète, il faut pouvoir par itération successive mettre en place une approche qui progressivement, mais le plus vite possible quand même, va permettre à l'entreprise de devenir contributive. Et pour ça, il faut changer tout un tas de trucs, à commencer par, bien sûr, la façon de concevoir les solutions commerciales. Même s'il faut aller vite, hélas, on ne peut pas tout faire bien du premier coup. Ça dépend de la taille d'entreprise, ça dépend de son secteur, ça dépend de la maturité des acteurs, ça dépend de la capacité que le leader ou les leaders auront à convaincre les autres parties prenantes de l'entreprise. Donc, il y a pas mal de planètes à aligner pour que, in fine, l'entreprise devienne réellement contributive. Ça peut demander 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, ça dépend d'où on part, mais c'est possible en tout cas.
Vous parlez de l'entreprise d'avant. Est-ce qu'on peut dire que l'entreprise contributive, c'est celle de demain ?
Oui, l'entreprise contributive vise à donner un nouveau cadre, en fait, un nouveau paradigme de ce que pourrait être l'entrepreneuriat du 21e siècle dans un monde qui va se contracter au niveau de ses flux physiques et dans un monde où on va, de façon tôt ou tard, devoir accepter de respecter ce qu'on appelle maintenant les limites planétaires. Bon, elle s'impose à nous, c'est la physique. Hein. Alors, c'est vrai que la planète a tellement été généreuse en ressources depuis le Big Bang hein, qu'on ne s'est pas trop préoccupé de ces sujets-là tant qu'on n'avait pas nous-mêmes acquis une puissance telle que on est capable maintenant d'abîmer en fait les écosystèmes qui ont paru pendant des siècles et voire des millénaires inaltérables. Sauf que bon, en émettant des milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, on a fini par détraquer le climat, c'est quand même pas rien. Donc maintenant qu'on a conscience, même si ça fait longtemps qu'on sait tout ça, mais maintenant qu'on en a conscience, parce que les dérèglements climatiques qui ne se voyaient pas il y a encore quelques décennies se voient maintenant, se voient tous les jours. Bon ben maintenant on a un choix qui est assez simple, hein. Soit on reste dans le déni, hein, et puis on se dit bon non, la technologie nous sauvera ou tout ça c'est pas vrai, etc. Et puis là je pense qu'on va au devant de, comme je dis souvent, d'illusions à la hauteur de nos désillusions, enfin plutôt à la hauteur de... On va au-devant de désillusions à la hauteur de nos illusions, soit on dit, bah oui, ok, très bien, on a été un peu trop loin quand même dans la gabegie, dans le gaspillage, dans l'inconscience, l'inconséquence, l'irresponsabilité, vous appelez ça comme vous voulez, puis on se resynchronise, c'est le terme qu'on utilise dans le livre, on se resynchronise aux limites planétaires, parce que ce sont les règles d'un business qui pourra être pérenne, qui pourra être durable, soutenable, parce qu'on ne dépensera pas plus que la planète est capable de donner. Bon, c'est quand même du bon sens près de chez nous, hein. Mais c'est hélas pas partagé par l'essentiel des économistes, par beaucoup, beaucoup de chefs d'entreprise encore aujourd'hui, hélas. Et tant qu'on sera dans cette illusion de la croissance infinie dans un monde fini en ressources, on continuera de croire des choses qui sont fausses.
Cela fait déjà plusieurs décennies que les scientifiques alertent au sujet du climat. Fabrice, à votre avis, qu'est-ce qui nourrit ce déni de la part des dirigeants ?
En fait, il y a beaucoup de scientifiques qui disent que le changement climatique est trop rapide pour notre capacité à nous adapter, mais il est trop lent pour nous faire réagir. C'est qu'enfin, on a toujours l'impression qu'on a le temps, quoi. Et parce que c'est vrai que bon, les dérèglements climatiques, ils sont juste spectaculaires, ils sont terribles dans leur violence, dans leur fréquence maintenant. Mais encore une grande partie de l'humanité qui passe à travers. Et c'est un peu comme quand un avion qui s'écrase. Hein, quand il s'écrase à l'autre bout de la planète, on dit « Oh merde !» Quand il s'écrase dans notre jardin, on dit « Ah, on regarde un peu plus !» quoi. Donc aujourd'hui, on sent bien que le sujet se rapproche de nous, hein, qu'il n'y a pas que les canicules en Afrique, il commence à y en avoir aussi chez nous. Les feux de forêt, il y en a partout. Les sécheresses, on voit ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc on voit bien que ça se rapproche, mais on se dit « Bon, on a encore un peu le temps, quoi. » Sauf qu'on n'a pas le temps. On n'a plus le temps, compte tenu du temps qu'il faut précisément pour changer, pour remettre en place une industrie contributive, des entreprises qui seront câblées avec ce type de paradigme, c'est-à-dire qu'elles auront compris qu'elles ne peuvent pas continuer à dépenser plus qu'elles ne gagnent au niveau de leurs ressources, hein, parce qu'en fait le business c'est des matières premières transformées avec de l'énergie. Mais si on utilise trop d'énergie et trop de matières premières, on sait très bien que ça ne peut pas fonctionner très longtemps. Enfin, ça ne peut pas fonctionner très longtemps dans la mesure où aujourd'hui, on est tellement nombreux sur cette planète, on utilise tellement d'énergie, il y a tellement de machines que nos modes de vie, nos modes de vie individuels, les modèles économiques des entreprises et les politiques des États sont clairement plus compatibles avec ces limites biophysiques. Certes, ce n'est pas du tout encore accepté par l'essentiel des décideurs qui restent bercés par des discours optimistes d'économistes incompétents qui n'ont pas fait encore complètement le lien entre l'économie et l'énergie. Pourtant, ce qui transforme le monde, c'est bien l'énergie. Et comme l'énergie, il y en aura moins qui va rentrer dans la machine économique dans les années qui viennent parce qu'il va falloir qu'on se débarrasse des fossiles, et qu'on ne pourra pas remplacer à l'identique la puissance produite par les énergies fossiles par des énergies renouvelables, bon, on va bien assister à une contraction de l'économie. Et donc cette contraction de l'économie, ça pourrait être un drame si on le fait n'importe comment, mais ça pourrait être très très bien si on concentre l'économie au service du vivant sur cette planète. On n'est qu'une partie, nous, du vivant. Hein. On n'est pas les seuls à cohabiter sur cette planète par rapport à des besoins essentiels. Donc c'est enlever tout ce qui est superficiel ou non essentiel pour ne conserver que les besoins essentiels. Et on va s'apercevoir qu'en conservant les besoins essentiels, on peut vivre aussi extrêmement heureux parce que finalement, finalement, l'objectif de la vie, c'est d'être heureux.
Est-ce que l'entreprise contributive se rapproche de l'idée d'une sobriété heureuse ?
Oui, Pierre Rabhi, ouais. Mais on sait bien aujourd'hui qu'on vit au-dessus de nos moyens, pas seulement financiers d'ailleurs, parce qu'on vit aussi au-dessus de nos moyens financiers compte tenu qu'on n'arrête pas d'empiler les dettes, mais on vit aussi des moyens de la planète, tout simplement, la capacité qu'elle a à absorber les émissions de CO2 en excès, à régénérer les poissons dans les océans, donc on voit bien qu'on est au-dessus de tout, on est au pic de tout. Donc, est-ce que ça rend heureux les gens d'être dans des modèles économiques de gaspillage et, ben, la réponse est non. La réponse est non. Ça, on arrive à satisfaire, certes, des besoins matériels qui sont, dont personne ne veut se passer. Hein. Personne ne veut revenir, comme dit Philippe Biwix, au dentiste des années 80 ou recommencer à voyager en calèche. Il n'est pas question de ça. Mais entre un retour à un niveau de confort matériel zéro et l'arrêt des gaspillages qui sont les nôtres aujourd'hui, on peut quand même imaginer une nuance. Et donc l'objectif qu'on poursuit avec Céline dans ce livre, c'est qu'on dit il n'est pas question de renoncer à la création de valeur économique, il n'est pas question de renoncer au progrès technologique, pas du tout, c'est idiot de penser ça, mais de faire preuve de discernement, de techno-discernement et de faire preuve de responsabilité sur les produits, les solutions qui auront le droit d'exister dans un monde qui va se contracter.
Construire l'entreprise de demain, cela implique forcément la nouvelle génération. Or, de plus en plus de jeunes, mais pas que, souffrent d'éco-anxiété. Quel est votre regard là-dessus ?
Il y a quand même une des bonnes raisons d'être éco-anxieux. Hein. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a quand même pas beaucoup de preuves comme quoi les choses bougent. Il y a un frémissement de prise de conscience. Il y a surtout beaucoup de déclarations d'intention, mais les actes tardent à suivre. Hein. Donc, vous savez, hein, toutes les grandes batailles se perdent avec deux mots. Hein. Je ne sais plus qui a dit ça, c'est trop tard. Donc, et les jeunes se sentent bien que chaque minute de perdu nous rapproche d'un chaos climatique qui est quand même juste dramatique, hein, si on écoute les scientifiques. Hein. Donc, l'éco-anxiété, moi, je la comprends tout à fait, parce que aujourd'hui, on n'a pas grand-chose à dire aux jeunes qui pourrait leur donner de l'espoir. Mais moi, quand j'en rencontre des éco-anxieux, et j'en rencontre beaucoup, hein, parce que je donne des cours, je fais beaucoup de conférences, je leur dis, écoutez, moi-même, je suis un peu désespéré de l'inertie, de l'inaction des décideurs, de leur inconséquence, de leur cupidité, de leur lâcheté, de leur égoïsme. Hein. Mais quelque part, je dis, s'ils sont comme ça, c'est qu'ils n'ont pas compris. Il y en a certainement dans le tas des gens qui ont compris, mais qui maintiennent l'illusion du monde d'avant. Et ça, c'est les pires de tous. Hein. C'est les cyniques, c'est impardonnable. Mais quelqu'un qui raisonne comme le monde d'avant, mais parce qu'il n'a pas compris, il est pardonnable. Il est pardonnable parce que je vous donne l'exemple de ce qui s'est passé pour la Convention citoyenne pour le climat. Il y avait 30% environ des Français qui avaient été tirés au sort qui étaient clairement climato-sceptiques parce qu'ils étaient juste ignorants. Et puis ils ont bénéficié d'enseignements, d'exposés, de scientifiques. Et puis ils sont aperçus qu'ils s'étaient trompés dans leur jugement, qu'ils n'étaient pas dogmatiques, donc ils ont changé d'avis, avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et puis à la fin, ils ont fini par proposer des mesures de transformation que même les écolos les plus radicaux n'auraient jamais osé proposer, parce qu'ils avaient compris. Donc la meilleure façon pour les éco-anxieux de s'en sortir, c'est dans leur sphère d'influence déjà d'essayer d'expliquer pourquoi ils sont éco-anxieux et d'essayer de trouver auprès de leur père et de leurs amis, de leur sphère d'influence, le soutien qui vont pouvoir leur donner un peu d'espoir sur le fait qu'on peut faire autrement. Donc il faut en parler, il ne faut pas rester dans sa bulle parce que ça c'est terrible. Hein. Là on peut vraiment tomber dans une dépression. Hein. Puis la deuxième chose que je dis aux éco-anxieux, je leur dis la meilleure façon de moins l'être, c'est de passer à l'action. C'est-à-dire que l'action rend heureux. Et donc l'action, c'est... On peut tous agir, soit avec sa carte bleue, soit avec sa carte d'électeur, soit en tant que salarié dans une entreprise, soit dans une association. Et puis d'aider, de passer à l'acte, de s'impliquer dans des projets de transformation, aussi insignifiant soit-il. Je dis bien aussi insignifiant soit-il, hein, ne serait-ce que d'aller ramasser les déchets dans la forêt ou d'aider un secteur de l'ESS ou dans son entreprise commerciale d'essayer de faire passer des messages pour que le management commence à réfléchir sur la transformation du modèle. On peut toujours trouver des leviers pour agir. Et ben, ce qui permet de tenir avant que la société bascule dans le bon sens, si tant est qu'elle bascule un jour, j'en suis pas du tout persuadé, mais ça permet donc de rester heureux malgré tout. Et moi, j'avais beaucoup entendu Mère Teresa, à qui on posait la question, mais d'être avec ces pauvres en permanence, à Calcutta, je ne sais plus où, là, ça doit être terrible. Vous avez dû avoir une vie complètement miséreuse parce que vous viviez avec rien, entouré de misère. Puis elle dit, mais non, j'ai été la plus heureuse du monde parce que je me suis sentie utile, j'avais des preuves d'amour en permanence autour de moi, etc. Et je pense qu'elle a été certainement beaucoup plus heureuse que nombre d'influenceuses de Dubaï, complètement désœuvrées, etc. Donc, je pense que oui, l'action rend heureux.
On arrive à la fin de ce podcast. Fabrice, quel conseil donneriez-vous aux dirigeants et décideurs ?
Il faut prendre le temps de comprendre cette complexité. Franchement, si les gens pensent qu'il suffit de lire un article et puis c'est bon, on a compris le truc, non, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Donc, c'est passer un petit peu de temps, même beaucoup de temps, parce que plus on comprend, plus c'est passionnant, en fait, parce que c'est juste l'histoire de la vie, en fait. Donc, c'est prendre le temps de se former et pas simplement de s'informer. Il y a une grande petite différence. Et ensuite, passer à l'acte, quoi.
Merci à Fabrice Bonifay pour sa participation. Dans le prochain épisode de Oser son leadership spirituel, nous vous proposons de rencontrer Pierre-Yves Antras, dirigeant de Haute-Savoie Habitat et auteur de Libérer son entreprise aux éditions Actes Sud. Et d'ici là, restez zen!